c'était génial. C'était vaillant, c'était ces jeunes, ils en voulaient à fond. Merci pour eux.
Les supporters du 15 de France qui ont fait le déplacement à Cardiff ont vu hier la première victoire sur le sol gallois depuis 10 ans et se prennent à rêver de grand chelem.
Alerte au coronavirus en Italie, au moins du nord, où deux personnes sont mortes ces derniers jours. 50 000 habitants de cette partie du pays sont confinés.
13 heures de visite au salon de l'agriculture hier pour Emmanuel Macron, un peu moins que l'année dernière, mais un soutien affiché de bout en bout aux paysans.
Et puis un concert incroyable à tout point de vue pour les fans de Madonna hier soir à Paris. Plus de 3 heures de retard, certes, ce qui est scandaleux, mais le bonheur de voir la diva en vrai.
On l'a jamais vue aussi proche, aussi fragile aussi, je crois. Ouais, c'est vraiment exceptionnel.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La revanche est prise après la défaite d'un point en Coupe du Monde de rugby cet automne. Et surtout, le Pays de Galles est battu chez lui par la France pour la première fois depuis 2010, l'année du dernier grand chelem des Bleus au tournoi des Six Nations.
Alors pas d'emballement s'il vous plaît, mais tout de même, hein, après ce 27-23, écoutez la joie des supporters français au micro de Simon Rubin qui était pour Europe 1 à Cardiff.
C'était génial, c'était vaillant, c'était ces jeunes, ils en voulaient à fond. Merci pour eux.
Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris du plaisir. C'était incroyable. C'était incroyable.
Ivre de joie dans les rues de Cardiff. On a chanté et trinqué toute la nuit. Des supporters français euphoriques. Et difficile de ne pas l'être. Hier, les Bleus ont signé une prestation d'exception en gagnant d'abord et surtout en résistant, en ne lâchant rien, en restant concentré, acharné, solidaire. Au-delà du succès, une équipe, un collectif est né. Mathieu Jalibert.
C'est indescriptible, voilà. C'est des émotions fortes pour un joueur de rugby. L'ambiance dans le stade, elle est énorme. Le stade, il est monstrueux. En plus, venir gagner ici, c'est juste fabuleux. Et voilà, je pense qu'on s'en est mis plein la tête et ça va être des bons souvenirs avec les copains.
Il reste désormais 2 matchs aux Bleus. 2 matchs pour aller chercher le titre et pourquoi pas le grand chelem. Bien sûr, rien n'est fait, répètent les joueurs. Mais il n'est pas interdit de rêver. Cardiff, Simon Rubin, Europe 1.
Les 2 matchs en question, Écosse-France dans 2 semaines et France-Irlande le 14 mars. On revient sur cette victoire dans le journal des sports dans moins de 10 minutes. Y a-t-il un nouveau foyer de l'épidémie de coronavirus à seulement 200 km de la frontière française? On compte en Italie 79 cas et 2 personnes âgées qui en sont mortes ces derniers jours. Une partie de la Lombardie, région du Nord, est désormais verrouillée. Entreprises et bâtiments publics fermés, matchs de foot annulés, tout comme les carnavals et les sorties scolaires.
Ça concerne pour l'instant 11 communes et 52 000 habitants. Et pour Europe 1, Nicolas Fallmann nous décrit la situation dans une petite ville qui s'appelle Codogno.
Des rues désertes, des bars et des magasins fermés. D'après des récits sur place, Codogno avait hier soir des airs de ville fantôme. Tout juste quelques pharmacies et épiceries accessibles, comme l'explique cet habitant contacté dans la soirée.
Tous les magasins sont fermés. On ne peut plus quitter la ville, vous n'avez pas l'armée, mais des policiers dans les environs qui vérifient que l'on ne sort pas. Moi, je suis d'accord avec cette mesure, parce que les autorités essayent de limiter la diffusion du virus.
Pour endiguer sa propagation, comme Codogno, 9 autres villes des alentours sont placées elles aussi à l'isolement pour les 2 prochaines semaines. Cela concerne au total près de 50 000 personnes. Et sauf raison particulière, interdiction pour elles de circuler hors de la zone. C'est dans cette région du nord de l'Italie qu'une 50aine de nouveaux porteurs du coronavirus ont été identifiés ces derniers jours. Un homme de 38 ans serait à l'origine de la propagation du virus. Le Premier ministre appelle les Italiens à ne pas céder à la panique et à faire confiance aux mesures prises par les autorités sanitaires et politiques.
Et de son côté, la France se prépare à une épidémie, déclare ce matin le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le journal Le Parisien, expliquant que les capacités de tests pour diagnostiquer le virus sont en train d'être augmentées, tout comme l'équipement en masque. C'est assez rare pour être souligné dans le débat sur la réforme des retraites. 2 amendements ont été adopté hier à l'Assemblée nationale. Il vise à mieux prendre en compte les personnes handicapées et les aidants familiaux dans le futur système. Il reste tout de même 34 500 amendements à étudier.
Emmanuel Macron ne voulait absolument pas battre son propre record au salon de l'agriculture qui date de l'an dernier, mais enfin il est tout de même resté hier presque 13 heures.
De quoi répondre à des dizaines de questions et d'interpellations des visiteurs et des éleveurs. Échange capté par le micro Europe 1 de Claudia Bertram.
Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président.
Les agriculteurs font entendre leurs inquiétudes dès l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le président tente de rassurer sur l'échec la veille des négociations européennes sur la PAC, la politique agricole commune.
On est protégé par le fait que si on n'a pas d'accord, on garde la PAC telle qu'elle est.
Sur les pesticides aussi, les ZNT, zones de non-traitement près des habitations.
On met en insécurité juridique les agriculteurs.
C'est vrai qu'on est dans une transformation qui est historique. Mon rôle, c'est de réconcilier tout ça.
Un sujet revient tout au long de la journée, l'agribashing des agriculteurs qui se sont dénigrés face aux enjeux environnementaux et le mal-être des paysans.
Il faut être aux côtés de toutes les associations qui accompagnent les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de solitude dans le monde agricole.
Autre inquiétude, le Brexit qui menace les pêcheurs français très dépendants des eaux britanniques. Le président termine sa déambulation dans les allées du salon par un huis clos avec les acteurs de la filière. Et Gérard Romiti, président du Comité national des pêches maritimes, est satisfait des réponses apportées par Emmanuel Macron.
Le président nous a rassurés, la France fera tout pour ses pêcheurs. La pêche ne sera pas la variable d'ajustement du Brexit.
Les gilets jaunes se font également entendre, interpellés par une femme. Le président a promis de recevoir un groupe de gilets jaunes. Ce serait une première.
Et après le Brexit, Emmanuel Macron qui doute de la possibilité de négocier un accord global d'ici la fin de l'année sur les nouvelles relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ils sont très durs, a déclaré le président français hier au salon. La question de la pêche est particulièrement tendue.
Toujours pas de résultat après les législatives en Iran et voilà que le pouvoir accuse la presse étrangère d'avoir cherché à décourager les électeurs.
Le guide suprême iranien Ali Khamenei évoque une campagne de propagande massive utilisant le prétexte d'une maladie et d'un virus. Aux États-Unis, Bernie Sanders remporte le caucus du Nevada. À 79 ans, c'est le candidat en forme du moment dans la course à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle en novembre.
La suite de ce journal, dans un instant, on va parler de l'Allemagne qui a stoppé, vous le savez, ses centrales nucléaires après la catastrophe japonaise de Fukushima et qui a dû changer de modèle énergétique. Nous allons voir si cela a de quoi peut-être inspirer la région autour de Fessenheim.
Europe 1, il est 8h07.
Europe 1.
Suite de vos informations avec François Geffrier et Bernard Poirette.
La centrale nucléaire de Fessenheim ne fonctionne plus qu'à moitié depuis avant-hier soir, un réacteur sur deux. Elle sera totalement stoppée à la fin du mois de juin, ce qui est vécu avec une vraie forme d'anxiété pour toute la région.
Et sur ce dossier, l'Allemagne a peut-être de quoi nous inspirer puisque le pays a choisi d'en finir avec l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Pour Europe 1, Hélène Kohl a rencontré les habitants de Grundringingen en Bavière qui connaissent exactement la même situation.
Le village se prépare pour la fermeture. Même sans la centrale, il y a la vie qui continue. Hein.
Joseph et Gerlinde habitent juste en face de la centrale. Sur les trois tours de refroidissement, deux déjà ne fument plus et l'an prochain, ce sera définitivement terminé.
Pour nous, c'est comme le clocher du village. Ça va vraiment faire bizarre.
Mais comme le précise l'ancien maire, Wolfgang Mayer, vous ne trouverez personne à Grundremingen pour déplorer la fermeture.
Non, je peux vous le garantir. Le nucléaire est une technologie de transition. C'était clair pour tout le monde qu'un jour ce serait fini.
Grâce à l'argent du nucléaire, la commune est devenue l'une des plus riches d'Allemagne. Elle en a profité pour baisser ses taxes et le prix de ses terrains, augmentant son attractivité. Elle héberge aujourd'hui deux zones d'activité avec plus de 200 entreprises. L'ancien maire a fait les comptes.
Ça représente un vrai pactole en impôts sur les sociétés. Nous compensons largement les pertes financières de la fin de la centrale.
La commune a aussi acheté des immeubles entiers à Munich. L'an dernier, l'argent des loyers a financé l'ouverture d'une nouvelle classe dans l'école et la construction d'un lotissement pour 16 familles. Grundremingen, Hélène Kohl, Europe 1.
Il s'appelait Jens Nygaard Knudsen, un Danois qui est mort à 78 ans. Mais ce sont surtout ces millions d'enfants que l'on connaît, puisque c'est lui qui avait inventé le petit bonhomme Lego en 1978.
C'est pas rien.
Et une figurine dont l'expression du visage est neutre, sans mention de sexe ou de race, afin, paraît-il, de laisser libre cours à l'imagination des enfants. Eux, en revanche, ont exprimé beaucoup hier soir, beaucoup d'amour pour leur idole Madonna, dont le premier concert d'une série de 12 à Paris avait lieu au Grand Rex.
2000 chanceux, même s'ils ont patienté plus de 3 heures avant que ça commence, ce qui est invraisemblable. Il fallait d'abord en fait que chacun dépose son téléphone portable à l'extérieur dans une pochette spécifique. Enfin, ça a été une perte de temps phénoménale. C'est donc ce qu'a fait aussi Angèle Châtelier d'Europe 1 avant enfin de pouvoir profiter du show.
3 escaliers rouges relient la scène à la salle. Ils permettent à Madonna de s'asseoir parfois à côté de son public ou venir danser près de lui. Un tête-à-tête de 2h30, l'attente vaut le coup pour les fans.
On l'a jamais vu aussi proche, aussi fragile aussi, je crois. Il y a une certaine fragilité qu'on ne voyait pas dans les autres tournées. Et c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment exceptionnel.
Car à 61 ans, malgré ses douleurs, Madonna n'a rien perdu de sa superbe. Si sa voix est rendue juste grâce à un logiciel spécial, elle danse toujours avec autant de grâce et de panache. Son show est une pièce de théâtre avec costumes, tableaux et surtout engagement. On ne compte plus les messages politiques, de faux policiers qui arrêtent des danseurs, des drapeaux américains, des forêts qui brûlent projetées derrière elle sur des écrans. Elle met même en vente aux plus offrants un polaroïd d'elle pris sur le vif, adjugé à 2000 euros pour les reverser à une association. Ce Madame X Tour est une performance intime où la star se dévoile en tenue signée Jean-Paul Gaultier, qu'elle croise par hasard en venant s'asseoir dans la salle. Des dizaines de choristes et musiciens interprètent avec elle son dernier album. Pour les tubes, il fallait attendre la fin, comme lorsqu'elle interprète Frozen et que sur écran géant s'affiche sa fille qui danse comme si elle était en famille.
Frozen, c'était Madonna, un reportage d'Angèle Châtelier.
À 8h12, c'est toute l'info sportive avec François Geffrier.
On commence, François, comme promis, avec le rugby. On savoure vraiment cette victoire des Bleus contre le Pays de Galles hier à Cardiff, 27-23 dans le tournoi Destination.
Élu homme du match, Romain Tamac ne boude pas son plaisir.
Incroyable, fabuleux, que ce soit pour nous, pour l'équipe ou pour le rugby français. Je pense que c'est quelque chose de très important d'avoir gagné ce soir avec la manière et on a senti un engouement derrière nous, dans les tribunes, de la part des supporters français qui ont fait le déplacement. C'est génial, donc franchement c'est incroyable, il n'y a pas vraiment d'autre mot. On sait qu'on a encore du chemin à faire, même si pour l'instant c'est très bien, mais on a encore beaucoup de travail à fournir pour être les meilleurs.
Romain Tamac avec Simon Rubin.
Le football, 26e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Bordeaux, c'est ce soir à 21h.
Des Parisiens qui doivent faire oublier la défaite de mardi contre Dortmund en Ligue des Champions et puis la soirée d'anniversaire du trio Cavani, Di Maria, Icardi qui était partout hein, sur les réseaux sociaux, ce qui a passablement agacé le coach Thomas Tuchel.
Nous ne sommes pas heureux avec cette image de la fête, comme j'ai dit. Pour moi, c'était très surpris. On a parlé ensemble avec l'équipe et ça reste interne et chez Je ne vais pas arrêter de dire mon avis à ce groupe. Je ne vais pas donner des conseils au club. Ce n'est pas mon rôle.
Thomas Tuchel avec Julien Froment.
En biathlon, là aussi, magnifique victoire française.
19 ans que le biathlon tricolore attendait ça. Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin sont allés chercher une médaille d'or sur le relais. On écoute Émilien Jacquelin.
C'est d'autant plus fort parce qu'on sent que toute l'équipe est heureuse et satisfaite. Cette médaille, on en a souvent parlé. Il y avait encore certains regrets de l'an passé où c'était Martin qui avait eu des difficultés au tir lors des championnats du monde. Donc là, c'est vraiment puissant. Ça fait 19 ans qu'on attendait ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'émotions pour toute l'équipe. Et c'est encore une fois le travail de tout un staff qui paye aujourd'hui. Donc c'est la plus belle des médailles collectivement, bien sûr. Et je pense que la force du collectif, il y a toujours... Un petit plus.
Et Emilien Jacquelin avec Pierre Tessot. Un mot d'athlétisme avec l'exploit du jeune Saha Zoya, 17 ans. Il représente la France et a battu hier le record du monde junior du 60 mètres haies, désormais à 7 secondes 34 centièmes. Le jeune franco-australo-zimbabwéen a pour objectif les championnats du monde junior qui seront à Nairobi en juillet prochain.
Merci beaucoup. Le 8h ce matin sur Europe 1 était présenté par François Geffrier qui reviendra tout à l'heure pour le 9h.